Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour, bienvenue chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Et puis nous accueillons Guy de Toulza. Bonjour Guy.
Bonjour, bonjour.
Et nous allons continuer sur la lancée de l'émission précédente à évoquer l'urbanisation et l'architecture toulousaine, transition renaissance, Moyen-Âge renaissance et période suivante.
Oui, on avait abordé la période de la fin du Moyen-Âge et on va arriver à la période classique, Guy, avec peut-être un petit peu une évolution qui est dû au ravage, on l'a un peu ébauché la dernière fois, du grand incendie de Toulouse de 1463, qui voilà, a peut-être amené des modifications dans la distribution parcellaire, on va dire.
Alors, pas tant l'organisation parcellaire ou urbanistique, parce que finalement, les rues restent les rues, et on va reconstruire sur les parcelles détruites, si ce n'est que l'économie s'est totalement effondrée, qu'il va falloir venir à Toulouse des commerçants venus d'ailleurs qui puissent relancer le dynamisme commercial de la ville. Et ces grands marchands que l'on va faire venir, on les fait venir évidemment d'Italie, d'Espagne, mais également du Pays Basque, du Rouergue. Ils ont les financements et ils peuvent relancer finalement, refaire partir le commerce toulousain, qui était une plateforme importante de commerce entre Méditerranée et Atlantique, comme ce sera toujours, mais également entre les Pyrénées, le Massif central et le nord de la France. Donc il faut redonner tout ce dynamisme et on fait appel à des gens qui ont des capitaux et qui peuvent investir. Pour cela, et ils vont venir évidemment s'installer, ils vont avoir des correspondants à Toulouse, et il va falloir rebâtir la ville, puisque c'est absolument indispensable. C'est la partie, je dirais, la plus riche économiquement, la plus dynamique économiquement, qui a disparu dans l'incendie de 1463. La dernière fois, on l'avait vu, ça part de la place des Carmes, ça va atteindre les Jacobins, ensuite entre la Garonne et ce que nous appellerions aujourd'hui la rue d'Alsace, donc ça fait quand même un périmètre extrêmement important, autour des grandes rues commerçantes que sont, comme toujours, la rue des Filatiers, la rue d'Échange, la rue Saint-Rome, et ensuite toute la partie qui longe la Garonne et où se trouvent bien souvent les entrepôts, puisque les marchandises arrivent bien souvent par des gabarres sur la Garonne et que les entrepôts sont tout naturellement évidemment proches de la Garonne. Donc, tout ça disparaît.
Alors, ces marchands, dans quoi vont-ils se réinstaller ? Dans des constructions récentes qu'ils font voilà. Ils vont bâtir, mais est-ce qu'ils vont bâtir sur ces petites parcelles en languette qui sont les typiques de la période médiévale ?
Alors, ils vont rebâtir prioritairement, évidemment, le long de la grande voie commerçante, oui, qui est rue des Filatiers, rue Saint-Rome, rue d'Échange. Ça, c'est évident parce que le passage, l'achalandage se fait évidemment dans cette rue-là. Et comme tout est à reconstruire, s'ils peuvent acquérir deux ou trois ou quatre parcelles pour agrandir finalement la longueur de façade, si l'on peut avoir deux boutiques, trois boutiques côte à côte, les boutiques, elles ont à peu près toute la même largeur, on peut dire quoi, 4-5 mètres de large d'envergure, les propriétaires étant ruinés, ils vendent, et si on peut avoir un grand espace, on a un grand espace, et là on va reconstruire, et on reconstruit au départ rez-de-chaussée en dur, pour des questions à la fois d'humidité par rapport au sol, par rapport à la rue, donc pierre si on peut c'est mieux, briques sinon, et à partir du premier étage on construit en bois. Et on le voit très bien, par exemple, à l'hôtel de Bruxelles, l'hôtel de Bourdon, qui est juste à côté, où l'on a un rez-de-chaussée en matériaux durs, et ensuite des étages qui sont construits à pans de bois. Et nous sommes là encore vers 1500, c'est-à-dire à cette charnière entre la fin du Moyen-Âge et la période qui sera celle du XVIe siècle et de la Renaissance.
Pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez situer les deux hôtels sont
Rue d'Échange,
l'un qui est rue d'Échange,
voilà,
l'hôtel
de Bruxelles, qui est la plus belle tour que nous ayons d'escalier dans ces immeubles. Et à l'angle de la rue Malcousina, hein, on a ces deux hôtels côte à côte qui sont tout à fait typiques de ces reconstructions fin 15e, début 16e. Quand on a plus d'argent, on peut reconstruire entièrement en briques. Hein. C'est l'exemple, par exemple, de l'hôtel Delfaux. C'est un hôtel qui va être construit entièrement en briques, hein, avec un bel ensemble de claire-voie en fenêtres. C'est très visible du côté de la cour. Malheureusement, sur la rue, l'immeuble a été refaçadé au XVIIIe siècle. Donc, on ne voit plus la façade d'origine sur la rue de la Bourse, cette fois-ci, en face de l'hôtel de Nupes, mais sur la cour intérieure, qui est restée telle qu'elle était à la fin du XVe siècle, on a là un ensemble qui est absolument remarquable, de grandes claires-voies, avec une série de fenêtres qui ouvrent largement à la lumière le niveau du premier étage, le rez-de-chaussée étant formé d'une grande boutique avec des piliers centraux, l'ensemble est voûté sur croisées d'ogives. C'est d'ailleurs une des très belles boutiques médiévales que nous ayons encore à Toulouse. Il en reste quelques-unes, hein, et qui sont couvertes de voûtes sur croisées d'ogives. Et nous sommes là pourtant à la fin du XVe siècle, c'est là où on va commencer à reconstruire. Et donc ces marchands reconstruisent sur les rues principales, la rue de la Bourse. Il y a la Bourse des marchands, donc ça fait partie de ces rues commerçantes. C'est là où elle est évidemment prioritaire.
Oui, et puis cet hôtel Delfaux, qui est à l'heure actuelle en travaux, en passant, moi j'ai constaté que le couloir d'accès a des voûtes magnifiques qui sont en travaux à l'heure actuelle. Et bon, j'espère que la porte sera ouverte pour qu'on puisse admirer...
Le problème de Toulouse, c'est que les immeubles ferment leurs portes pour des questions de sécurité. Alors pour ceux qui sont vraiment curieux, je les invite plutôt à rentrer dans la boutique.
Oui, c'est vrai.
Il y a quelques petites jeunes filles tout à fait charmantes qui vendent du thé, des épices, des cosmétiques, etc. Et puis, aller traverser la boutique et regarder la cour, est une des plus belles cours gothiques que nous ayons, qui rappelle tout à fait ce qu'on fait à la même époque à Lyon, par exemple, hein, où on a le même dynamisme à Lyon, où on a le même type d'architecture à Lyon, qui est une autre grande ville très commerçante, elle, sur les bords du Rhône et de la Saône. Nous avons, nous, la Garonne, mais on est exactement dans le même mouvement d'architecture, qui est un élément important. Donc quand on peut, quand on a les moyens, on reconstruit en briques. On va garder on va utiliser la pierre. La pierre est rare à Toulouse, hein. Il faut la faire venir des Pyrénées ou des Piémonts pyrénéens. Il faut qu'il y ait de l'eau dans l'Ariège, dans la Garonne, pour que sur des radeaux on puisse amener la pierre. Oui. Donc la pierre est rare et on va l'utiliser exclusivement pour les éléments décoratifs sculptés, les fenêtres avec leurs meneaux et croisillons, leurs croisées, et parfois des encadrements qui peuvent être très raffiné. On en a un bel exemple à l'hôtel de Boisson, rue Malcousina, qui est aujourd'hui la petite maison d'Occitanie.
C'est nos amis occitans.
Voilà. Pardon ?
Qui est le siège de nos amis occitans.
Le siège de nos amis occitans, absolument. Et dans la seconde cour, il y a une magnifique fenêtre gothique avec un décor extrêmement soigné, fouillé, qui rappellerait la qualité architecturale du cœur de la cathédrale d'Albi. Hein. Nous sommes là dans les mêmes années, avec un petit chien qui se frotte l'oreille, qui est absolument extraordinaire. Donc on peut avoir des choses extrêmement raffinées dans ces hôtels, même s'ils sont dans des rues secondaires, puisqu'elles se s'ouvrent, non pas sur une grande rue commerçante, la rue d'Échange, mais à l'arrière.
Mais pour faire construire de façon aussi élégante, aussi riche, ben, il faut l'être. Il faut, Toulouse, pardon, c'est quand même reconstruit. Et on a des témoignages de voyageurs qui montrent que Toulouse s'est construit quand même beaucoup reconstruit en torchis.
Voilà, alors on reconstruit en torchis parce que c'est rapide. Quand on veut
c'est
construire,
pas cher,
c'est pas cher. Parce que c'est du bois et du torchis.
Et
on a l'exemple d'une maison rue Peyras qui est construite justement en torchis et qui est en ce moment étayée, qui est en bien mauvais état, si ce n'est qu'elle est tout à fait exceptionnelle sur le plan du patrimoine, parce que ce n'est pas un remplissage de briques comme on peut l'avoir ailleurs, c'est un remplissage de torchis, c'est-à-dire de paille, de fibres, de boue, de choses comme ça. Et ça montre, là encore, dans une petite rue secondaire, mais proche de la rue principale qui est le carrefour d'échange, rue d'échange, rue Saint-Rome, rue Peyras. C'est une petite maison d'angle, mais elle est extrêmement précieuse parce que matériaux pauvres, sur un rez-de-chaussée en dur, justement, on a bien l'exemple ici d'une construction tout à fait typique, moyenne, de ce qu'on reconstruit à Toulouse après le grand incendie.
Oui, oui. Oui, mais les Capitouls avaient d'ailleurs pris des décisions pour qu'on reconstruise en briques.
Alors,
c'était beaucoup trop cher pour la plupart des...
Voilà, alors les Capitouls prennent des ordonnances, c'est bien facile de prendre des ordonnances, encore faut-il qu'on les fasse appliquer. Je rappelle que les Capitouls ont une durée de vie d'un an leur poste, donc ils changent chaque année au mois de novembre, et que faire ensuite la police, c'est très compliqué, et il vaut mieux reconstruire comme on peut, plutôt que de laisser des dents creuses, des maisons, des espaces qui sont encore chargés de matériaux de décombres.
Donc on retiendra, Guy, que la reconstruction de Toulouse est effective, mais diverse, et que ce sera la séquence prochaine, trouver des édifices plus prestigieux au XVIe siècle.
Voilà, la construction est lente, mais elle sera efficace. Voilà.
Merci beaucoup, Guy, pour cette évocation de la fin du Moyen-Âge.
Bonne semaine.